9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
le 14 septembre 1936, à Madrid, au pied du bâtiment de la Banque d'Espagne, le quartier a été complètement bouclé. Il y a des centaines de carabiniers espagnols qui sont là partout, tout autour. D'autres portent de lourdes caisses qui remontent depuis les coffres de la banque vers des camions qui sont là dans la rue. Il y a 10 000 caisses. 10 000 caisses de 75 kilos chacune et elles sont remplies d'or, de lingots, de dollars, d'argent aussi, de bijoux. C'est la réserve de la Banque d'Espagne qui est ainsi évacuée. Une valeur de 719 millions de dollars de l'époque. Je dis bien des dollars de l'époque. Ça représente, nous disent les historiens, probablement quelque chose comme 9 milliards de dollars d'aujourd'hui. Un pactole faramineux, en partie accumulé pendant la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle l'Espagne était, vous le savez, restée neutre. Tout ça est supervisé par le directeur du Trésor. C'est autorisé par Juan Negrín. Juan Negrín, c'est le ministre des Finances. Il a fait signer un décret secret par le président du Conseil, Caballero. Tous les deux sont des socialistes, bien entendu. L'or et l'argent sont acheminés jusqu'à la gare de Madrid, sont chargés à bord d'un train et ils prennent la direction du port de Carthagène, sur la côte méditerranéenne, au sud-est de l'Espagne. Et là, le trésor va être entreposé, caché dans tout un réseau de souterrains, dans la poudrière de la Algameca. Toute la région va évidemment rester sous le contrôle étroit de l'armée républicaine et espagnole. Vous avez compris qu'on est en pleine guerre civile, bien entendu. Deux mois plus tôt, depuis le Maroc espagnol, le général Franco a lancé son insurrection militaire contre le gouvernement de Front Populaire. Le gouvernement qui était issu de la victoire de la gauche aux élections de février 36, insurrection qui s'est étendue par la suite dans toute l'Espagne, les monarchistes, les nationalistes, une partie de l'armée, une grande partie de l'Église, tout ce monde-là veut abattre la jeune République espagnole et, bien sûr, un certain nombre de puissances en Europe vont soutenir l'insurrection, à commencer par Hitler et Mussolini qui envoient des armes, qui envoient des hommes et qui envoient des fonds. En septembre 36, donc, les nationalistes déjà contrôlent plus de la moitié du pays. Ils s'approchent de Madrid, ils s'en approchent dangereusement de la capitale. Ils sont maintenant à Talavera de la Reina, c'est-à-dire que c'est à 116 kilomètres ça de Madrid. Le gouvernement républicain veut à tout prix mettre l'or à l'abri. Il a besoin de ses fonds, évidemment, pour soutenir une monnaie très attaquée, pour acheter des armes. C'est le nerf de la guerre dont nous sommes en train de parler, bien sûr. À Carthagène, au fond de la poudrière, ce trésor ne reste pas intact bien longtemps. Le ministre des Finances, donc ce fameux Juan Negrín, ordonne les premiers prélèvements. On prend déjà 500 caisses d'or qui sont embarquées sur un cargo direction Marseille. Seulement, assez vite, la France n'est plus la principale destinataire des sorties d'or. À la mi-octobre 36, le président du Conseil, Caballero, et le ministre des Finances Negrín envoient en effet une lettre à un chef d'État un peu inattendu, là. Il s'agit de Staline. Lettre absolument stupéfiante, je vous lis. « En ma qualité de président du Conseil, j'ai pris la décision de vous prier de demander à votre gouvernement de bien vouloir accepter qu'une quantité d'or d'environ 500 tonnes soit placée en dépôt au commissariat du peuple aux finances de l'Union soviétique. » Oui, vous avez bien compris, l'or en question doit être placé à Moscou. Le gouvernement républicain espagnol est en train d'organiser le transfert de tout l'or de la Banque d'Espagne à Moscou, de le donner en quelque sorte, de le confier en tout cas à Staline. Mais vous allez me dire, pourquoi une telle folie ?
Franck Ferrand sur Radio Classique.
On l'a dit, les nationalistes séditieux sont soutenus par Hitler et Mussolini. Et les républicains ont du mal à compter sur les démocraties européennes. La Grande-Bretagne a refusé d'intervenir au nom de sa politique d'apaisement. En France, Léon Blum, qui pourtant est ce président du Conseil de Front Populaire, n'obtient pas la majorité à la Chambre pour un engagement militaire, puisque les radicaux se sont opposés à s'engager dans cette affaire espagnole. Et il a dû se contenter, vous savez, d'envoyer des armes clandestinement. Reste donc essentiellement le pivot de l'autre camp, si je puis dire, c'est-à-dire l'Union soviétique. L'Union soviétique de Staline, qui officiellement opte lui aussi pour la non-intervention, vous me direz, mais qui donne des instructions secrètes au général Berzin pour soutenir l'armée républicaine espagnole. Staline veut affaiblir à la fois les régimes fascistes et les démocraties, et à la limite, pourquoi est-ce qu'il n'en profiterait pas pour essayer d'installer en Espagne un régime à sa botte ? Staline va créer des sociétés d'import-export d'armes en direction de l'Espagne. Il envoie 2000 militaires et instructeurs soviétiques et surtout, il renforce l'antenne du NKVD en Espagne. Le NKVD, c'est le futur KGB. Cette antenne, il l'a confiée au colonel Alexandre Orlov, un homme, une sorte de géant. Il fait 2 mètres de haut. Il a 40 ans, Orlov, est toujours très élégant. Avec lui, il y a toute une légion de commissaires politiques et d'espions qui débarquent pour infiltrer l'administration, pour infiltrer l'armée et les brigades internationales de volontaires, bien sûr. Staline commence déjà à livrer des armes, d'abord 6 avions, puis des mitrailleuses. Il n'a pas envoyé ce qu'il avait de plus moderne, mais enfin bon, des vieux canons aussi. Pas grand-chose, mais suffisamment quand même pour amadouer les républicains qui, de toute façon, n'ont pas tellement le choix parce qu'ils n'ont pas d'autres alliés. Ils sont aux abois et bien sûr, quand le président Caballero et le ministre Negrín demandent à Staline d'abriter l'or de la Banque d'Espagne, de l'abriter à Moscou, inutile de vous dire que Staline ne va pas dire non. Mais bien sûr, camarades, naturellement, pas de problème. Les Espagnols rédigent tout un protocole pour garantir le transfert et c'est l'ambassadeur soviétique Rosenberg qui feint de donner les gages réclamés. Seulement, en coulisses, Staline a envoyé un télégramme codé au chef du NKVD à Madrid, donc au colonel Alexandre Orlov. Voilà ce que dit le message du Kremlin. « Vous vous mettrez en rapport avec le chef du gouvernement espagnol afin d'organiser l'expédition des réserves d'or vers l'Union soviétique. Vous utiliserez à cet effet un navire soviétique. Cette opération est à effectuer dans le plus grand secret. Si les Espagnols vous demandent un reçu pour le chargement, refusez. Je répète, refusez de signer quoi que ce soit » et déclaré qu'un reçu en bonne et due forme sera délivré à Moscou. L'ambassadeur Rosenberg a reçu des instructions en ce sens. Ce qui est en train de se préparer est un véritable tour de passe-passe. Staline est tout simplement sur le point de réaliser son coup de maître. Un fandango, extrait du Tricorne de Manuel de Falla, l'orchestre de Philadelphie était sous la direction de Ricardo Muti.
Vous écoutez Radio Classique.
Nous sommes maintenant à la fin d'octobre 1936 et voilà que 4 cargos soviétiques accostent dans le port de Carthagène. Carthagène, c'est au sud de l'Espagne, Espagne républicaine. Dans les cales de ces cargos, des chars, des munitions soviétiques à l'intention de l'armée républicaine espagnole. On décharge tout ça, bien sûr, et une fois la cargaison déchargée, c'est un autre manège qui commence. De nuit, 60 marins espagnols et autant de soldats soviétiques embarquent sur les cargos les tonnes d'or espagnol sorties de la poudrière de la Algameca où on les avait donc entreposés. Tout ça sous les bombardements des avions nazis qui visent la poudrière. Le 28 octobre 36, 4 navires chargés de 510 tonnes d'or, d'argent, de dollars prennent le large. 510 tonnes. 9 jours plus tard, ils arrivent à Odessa. Et là, Odessa, ça y est, on est dans la République socialiste soviétique d'Ukraine. Ils n'ont pas été interceptés, ces navires par les flottes de Franco et de Mussolini. À Odessa, sur le quai de déchargement, il y a tout un groupe d'officiers du NKVD. Ils ont été triés sur le volet, ce que j'ai besoin de vous dire. Et voilà qu'ils prennent en charge la précieuse cargaison. Le chef de la police, Yechov, les a désignés en personne. Ils sont si peu nombreux qu'il va leur falloir plusieurs jours pour transborder tout ça, pour transborder toutes ces richesses, tout ce trésor espagnol sur des camions. Le convoi, qui est lourdement escorté, prend la route de Moscou. Et l'on va maintenant pouvoir... resserrer. On va pouvoir enfermer l'or espagnol au ministère des Finances dans les caves du trésor soviétique. Ah, Staline peut se frotter les mains, vous imaginez ça, il exulte, il organise un banquet au Kremlin pour fêter l'opération et après quelques verres de vodka, voilà ce qu'il aurait dit. Les Espagnols n'ont pas plus de chance de revoir leur or que de se regarder les oreilles. Enfin, ça, c'est Orlov, le fameux colonel du NKVD, qui rapporte la boutade. On ne sait pas si elle est vraie. Mais en tout cas, dans l'esprit, elle est tout à fait juste. Après le banquet, Staline va décorer Orlov de l'ordre de Lénine. Seulement, Orlov n'est pas le seul à mériter les remerciements de Staline. Le ministre espagnol des Finances lui-même a rempli un rôle encore plus trouble. Oui, je vous parle bien là de Juan Negrín. Les historiens ont établi que ce Juan Negrín a été le principal responsable de ce transfert vers Moscou. C'est lui qui a rédigé le décret d'autorisation de sortie de l'or et c'est lui qui l'a proposé au président du Conseil, au fameux Caballero. Toute cette histoire qui nous est préparée ce matin par Pierre Anquetin, toute cette histoire sort des 10 faces cachées du communisme qui vient de paraître chez Perrin. C'est le dernier livre de François Kersaudy, qu'il m'excuse pour cette petite bévue. François Kersaudy fait le portrait de Juan Negrín, je le cite. Curieux homme en vérité que ce professeur de physiologie à la faculté de médecine de Madrid, il n'avait pas la moindre compétence dans le domaine financier, mais le Parti socialiste l'a imposé un mois plus tôt au ministère des Finances. Pour le reste, il a une femme russe, des sympathies communistes très marquées, et on l'a beaucoup vu au cours des semaines précédentes en compagnie de plusieurs agents soviétiques, Antonov Osienko, nouveau consul général de l'Union soviétique à Barcelone, et puis surtout le polonais Artur Staszewski, attaché commercial et en vérité principal agent du NKVD, chargé de contrôler les finances du gouvernement républicain. Ces deux hommes, et quelques autres, ont-ils exercé des pressions sur Negrín pour qu'il persuade ses collègues de la nécessité de mettre l'or à l'abri en Union soviétique? C'est très probable, conclut François Kersaudy. Le transfert de l'or à Moscou, pour autant, ne va pas accélérer les livraisons d'armes soviétiques, puisqu'elles sont tout à fait insuffisantes. Staline livre tout avec retard. Ce sont des armes de mauvaise qualité qui arrivent et qui sont attribuées exclusivement aux unités contrôlées par les communistes. Et peu à peu, les communistes espagnols sont en train de s'emparer des postes stratégiques de l'armée républicaine espagnole. Les sous-secrétaires d'État espagnols à l'armement, à l'aviation sont communistes. Ils vont signer à l'URSS des récibicés pour des armes qui ne sont pas livrées. Et parfois, c'est le ministre lui-même, le fameux Negrín, là, qui signe. Et au même moment, Staline ponctionne les sommes correspondantes dans le trésor espagnol. Ben, c'est facile. Il n'a qu'à se servir. Il a tout ça sous la main maintenant. Il est en train, tout simplement, d'organiser la spoliation de l'or qui lui a été confié. Et Staline renforce encore son emprise sur l'Espagne républicaine. L'aviation espagnole est entièrement contrôlée par ses hommes. Maintenant, il exige la fusion du PS et du PC espagnol. Il exige l'arrestation des trotskistes, un remaniement ministériel à son avantage, bien entendu, et déjà ce qu'on doit pouvoir appeler quelque chose comme des purges. Le président Caballero et les socialistes commencent à comprendre qu'en vérité, ils se sont alliés avec le diable. Et Caballero, maintenant, s'oppose s'oppose aux ordres de Staline. Il demande des comptes sur l'or espagnol. Mais quel compte voulez-vous qu'il demande? Il a tout donné. Tout se trouve là-bas maintenant à Moscou et la sanction ne se fait pas attendre. En mai 1937, le Parti communiste espagnol exige et obtient la démission de Caballero. Et qui va le remplacer à la tête du gouvernement? Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est Juan Negrín, bien entendu? Et désormais, Orloff et les hommes du NKVD ont le champ libre en Espagne. Ils traquent les trotskistes, ils font la chasse à tous les communistes dissidents, si vous voulez, même à un certain nombre de socialistes récalcitrants. Ils les enferment dans des prisons secrètes et on torture et on assassine. François Kersaudy évalue le nombre des victimes à 15 000 victimes désignées comme antifascistes. C'est la terreur stalinienne exportée en Espagne. Que voulez-vous, dit Negrín? Il faut bien payer les armes soviétiques. Elles sont pourtant déjà payées. Elles sont payées, mais même au centuple, puisque Staline s'est emparé de tout l'or espagnol. L'Orchestre symphonique de Chicago, sous la direction de Leonard Bernstein, interprétait ce deuxième mouvement de la première symphonie de Shostakovich.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a récupéré une fortune? On élimine les témoins, généralement c'est exactement ce que va faire Staline, l'agent polonais du NKVD qui avait poussé Negrín à transférer l'or, là, le Stachevski dont je vous parlais est rappelé à Moscou, et comme par hasard il va disparaître, et disparaître avec toute sa famille. Le général Berzin qui lui a organisé, repris en main l'armée espagnole est fusillé, l'ambassadeur soviétique à Madrid, Rosenberg, est liquidé, le directeur du trésor soviétique est liquidé lui aussi. De toute façon, on est dans la terreur moscovite là, à cette époque-là. Un homme n'a pas l'intention de subir le même sort, c'est le fameux colonel Orloff, là, l'homme du NKVD, l'artisan du vol de l'or espagnol. Le 12 juillet 38, à Barcelone, il escamote 60 000 dollars dans l'ambassade soviétique. Il passe les Pyrénées avec sa femme et sa fille. Il vient s'installer à Paris. Il décroche un visa pour le Canada. Le voilà qui est déjà à Cherbourg. Il saute dans le premier paquebot direction Montréal. Et arrivé au Canada, puis aux États-Unis, il écrit une lettre de menace à Staline. « Si vous me tuez, le dossier de l'or espagnol sera rendu public. J'ai tout fait pour. » Orloff connaît aussi bon nombre d'agents du NKVD infiltrés à l'étranger. Et il est au courant de toutes les opérations clandestines en cours. Il est évident que si jamais ce qu'il sait venait à être rendu public, ce serait pour l'Union soviétique une catastrophe. C'est donc sa sauvegarde. C'est sa protection, il va survivre, lui, à Staline. Et pendant ce temps, la guerre d'Espagne suit son cours, les républicains reculent, ils ne tiennent plus maintenant que la Catalogne, en Gérone, le château de Figueras abrite encore une petite partie du trésor espagnol, tout ce qui n'avait pas encore été emporté à Moscou, de l'or, de l'argent de la Banque d'Espagne, le contenu de 4000 coffres privés, les biens des familles aristocratiques, des trésors religieux également, avec un certain nombre de toiles de maître qui ont été retirées du Prado. Le président du Conseil, c'est toujours Juan Negrín, n'a pas l'intention d'abandonner ses dernières caisses aux mains de Franco. Alors, il ordonne à l'armée de les acheminer vers la France. Seulement, le colonel en charge de l'opération manque de camions. Il charge la moitié du trésor seulement et puis il fait exploser le château avec le reste du trésor. Il y a 25 tonnes d'explosifs qui vont faire tout sauter juste avant l'arrivée des troupes franquistes. Les camions chargés traversent la France jusqu'au Havre et là, le NKVD va prendre la relève. Et le précieux chargement est embarqué sur un cargo et le cargo en question, mais oui, prend la direction de Leningrad. Et le 31 mars 39, la République espagnole rend les armes. Et évidemment que non seulement elle n'a jamais revu son or, mais elle a perdu tout son or qui maintenant se trouve en Russie soviétique.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il faudra attendre 1956 pour que surgisse la question au niveau diplomatique. L'ex-ministre et président Juan Negrín vient de mourir à cette époque-là. Il est mort à Paris d'ailleurs. Il a laissé ses archives en ordre. Il a autorisé son fils à rendre les archives à l'Espagne. Et dans tous ses papiers, eh bien, on retrouve le fameux protocole officiel de dépôt de l'or espagnol signé à Moscou le 5 février 37. Donc, les Soviétiques avaient quand même signé un document. Ah oui. Franco fait publier un communiqué à l'époque. C'est lui, bien sûr, qui dirige totalement l'Espagne. À l'époque, on est en 1956. Voilà le communiqué de Franco. Ces documents donnent au gouvernement espagnol la base juridique nécessaire pour réclamer la restitution du dépôt qui représente, comme on sait, une quantité d'or considérable. Qui est le patron du Kremlin à l'époque? Eh bien, là, c'est plus Staline, puisqu'on est 3 ans après sa mort. C'est Khrushchev qui dirige le parti et l'État. Il fait répondre par la Pravda, certes, environ 500 tonnes d'or ont été déposés à Moscou en 1937, mais la somme a été entièrement dépensée en achat d'armes et de devises sur ordre du gouvernement espagnol. Vous voyez, je vous parlais d'un tour de passe-passe. Inutile de vous dire que, à ce jour, jamais encore, Moscou n'a rendu ne serait-ce qu'une pièce d'or à Madrid.
Vous écoutez Radio Classique.
À propos d'or, voici un homme d'or. C'est Christian Morin. Bonjour Christian.
En quelque sorte, il est l'or de,
il est l'or de
notre croisement quotidien. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Franck, que vous retrouverez à 14h tout à l'heure, vous parlera de l'affaire Rosalie Doise.
Oui.
Je ne sais pas de qui il s'agit.
Mais vous verrez ça, à 14h, c'est une belle histoire.
Donc c'est pour ça que chaque jour, à 14h, je joue les auditeurs, à mon tour, de l'autre côté du micro. En vous écoutant à propos de Staline, ça me faisait penser à ces panneaux, vous savez qu'il y a souvent, lorsqu'il y a des travaux dans certains commerces, liquidation totale avant travaux. Mais là, je ne sais pas s'il y a toujours eu des travaux après liquidation totale. Cela dit, l'histoire continue en quelque sorte à propos de liquidation.
Ah, je croyais que vous parliez des stocks d'or.
Ah non, non, pas du tout. 500 tonnes d'or. Est-ce que Khrouchtchev était mieux que Staline après tout? Parce que ce Khrouchtchev qui
il
était...
Il a fait moins de victimes. Rond...
Oui, bien sûr, mais rondelé... Oui, enfin, encore qu'à l'époque de Staline, il était déjà dans les couloirs, si
oui,
j'ose dire.
Vrai.
Mais ce type qui était rondelé, sympathique, avec sa chaussure, avec la visite des studios d'Hollywood à l'époque de Kennedy... Quand on relit l'histoire, quand même, c'était pas brillant. Bien, il n'est plus là, on parlera d'autre chose. À tout à l'heure, mon cher Franck, et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine à l'écoute de Radio Classique.
Bonne semaine à tous.